Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi, en direct de 15h à 16h. Alors vous le savez, pendant une heure, il est tous les jours mon acolyte dans ce studio. C'est bien sûr le grand, le fort, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à la BPCO, la bronchopneumopathie chronique et obstructive. Alors un nom un petit peu bardard, il faut le dire, hein, pour qualifier une maladie grave causée principalement par le tabagisme. Alors, savez-vous quels sont les symptômes qui doivent y faire penser? Comment se fait le diagnostic et comment ça se traite justement? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nous recevrons le professeur Bruno Crestani. Il est chef de service de pneumologie à l'hôpital Bichat à Paris et vice-président de la Fondation du Souffle. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. On va parler cet après-midi des préservatifs avec cette question à laquelle répondra Benjamin Lévesque. Sont-ils tous aussi résistants les uns que les autres? Il reprendra aussi les bases, bien sûr, petit rappel sur leur bonne utilisation pour une protection maximale. Et puis vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question des rêves érotiques.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question qui nous a été posée par Carla.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je voulais savoir pourquoi les hommes ont une pomme d'Adam et nous les femmes on n'en a pas. Et est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Merci beaucoup, bonne journée et bonne émission.
Allez, un petit peu d'anatomie, Jimmy, pour démarrer cette émission. D'ailleurs, c'est quoi la pomme d'Adam, précisément? Les hommes auraient donc, pour une fois, un petit truc en plus?
Eh ben non, les
dites-moi
hommes...
que j'ai tort, tout de suite.
Non, ils n'ont pas un petit truc en plus. Les femmes ont aussi une pomme d'Adam, c'est juste qu'on la voit un peu moins. Alors, je me suis dit, d'ailleurs, pourquoi on appelle ça pomme d'Adam? Parce
bah
que
oui,
c'est un nom
pas.
Un peu étrange. Eh bien, figurez-vous que Dieu aurait créé Adam et Ève. Et Ève aurait eu la tentation de manger un fruit.
Le fruit défendu.
Exactement, le fruit défendu, amené par le diable qui serait déguisé, qui aurait incarné un serpent. Ève a mangé un fruit qui serait une pomme, l'a avalé sans problème, mais Adam l'a avalé et s'est resté coincé dans sa gorge.
Oh.
On n'est pas sûr que ce soit vraiment une pomme, et d'où l'appellation pomme d'Adam.
D'accord.
Et donc cette pomme d'Adam, en fait, c'est du cartilage qui va prendre la forme d'un papillon, qui va entourer la thyroïde, et qui va se développer majoritairement pendant la puberté chez les garçons sous les effets de l'hormone, la testostérone. À ce moment-là, la voix des garçons va changer. Vous allez avoir, on va avoir du poil qui va pousser au niveau du menton. Et cette pomme d'Adam, eh bien, elle va augmenter de volume, descendre un petit peu et se mettre au niveau du cou, au niveau de la peau, où on va le voir de façon plus visible.
C'est là où la peau est fine, finalement.
Exactement.
En descendant, ça va à un endroit
alors
plus fin.
Alors que chez la femme, ouais. Eh bien, cette pomme d'Adam ne va pas se développer autant, elle va rester un peu plus haut et cachée. Mais les femmes ont aussi une pomme d'Adam.
D'accord, bon, bah, c'était effectivement une idée reçue. En soi, est-ce que ça sert à quelque chose? Vous l'avez dit, ça protège en fait la thyroïde, c'est ça? Mais ça n'a pas de fonction, enfin, ce n'est pas un organe qui a une
alors,
fonction
ça,
particulière.
Ça n'a pas de fonction essentielle, ça se trouve... Ça protège essentiellement les cordes vocales et le larynx, c'est les voies respiratoires. C'est pour ça que si on vous appuie à ce niveau-là, vous avez du mal à respirer. Donc c'est une forme de protection mécanique, si on veut schématiser.
Bon, un bouclier de cartilage, alors on a compris. Merci beaucoup Jimmy pour cet éclairage. On va passer à la deuxième question d'auditeur du jour. Cette fois, c'est Inaya, 32 ans, qui nous l'a posée sur notre répondeur. La voilà.
Bonjour docteur, bonjour Mélanie. Il se dit qu'il faut manger des pruneaux quand on est constipé, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fait exactement dans le ventre? Merci beaucoup, au revoir.
Bon, question très pratique, Jimmy. Le transit, ça vous connaît. Les pruneaux, pourquoi les pruneaux?
Alors, les pruneaux, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est riche en fibres et ces fibres, elles sont insolubles, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas être non plus digérées par le tube digestif. Elles vont s'éliminer plus rapidement et donc ça va stimuler le transit. Et puis aussi, les pruneaux sont riches en sorbitol. Le sorbitol, c'est un glucide, donc c'est un sucre, mais qui a une particularité de stimuler aussi le transit intestinal. Et les pruneaux possèdent autre chose, ce qu'on appelle des composés phénoliques, les phénols, qui permettent eux aussi de stimuler le transit. Et donc vraiment, si vous êtes constipé, ça peut vous aider.
Merci, docteur Pruneau. Donc vous êtes du spécialiste des pruneaux.
Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec l'industrie des pruneaux.
Bon, très bien. Voilà, mais bon, on peut en manger en cas de constipation, ça marche très bien. Est-ce qu'il y a d'autres d'ailleurs petits conseils anti-constipation justement?
Oui, il y a d'autres fruits mûrs qui peuvent vous aider. Moi, j'aime bien la poire et la pomme, qui sont riches en pectine. La pectine.
Oui, parce que les enfants, ils n'aiment pas toujours les pruneaux. Moi, je sais qu'avec les miens, ça marche
pas du tout.
Ils en veulent pas.
La pomme, ça marche pas mal. La pectine, c'est aussi une fibre qui est insoluble et qui a formé une forme de gel dans le tube digestif qui va augmenter l'absorption de certains aliments et qui va augmenter le bol fécal et donc vous allez aller plus facilement aux toilettes. Le café aussi, ça marche pas mal. Alors, pas au travers de la caféine, parce que souvent, c'est ce qu'on croit, c'est que le café va stimuler une hormone qu'on appelle la gastrine, qu'on a au niveau du tube digestif, qui va permettre de vider l'estomac plus rapidement et de contracter un peu le côlon. Donc, avec ces petites choses toutes simples du quotidien, eh bien, on peut limiter des problèmes intestinaux.
Je crois qu'aussi, c'est peut-être un peu moins connu, mais faire une activité physique, bouger, en gros, hein, ça peut débloquer un petit peu quand on est coincé pour
exactement
aller aux toilettes.
Et à l'inverse, l'inactivité entraîne de la constipation. C'est ce qu'on observe notamment chez les personnes âgées. Et à contrario, quand vous faites une activité sportive parfois très intense, eh bien, vous avez envie absolument d'aller aux toilettes.
C'est pour ça que vous n'en faites pas, vous. Hein.
Exactement, parce que mon transit se porte déjà très bien.
Très bien. Et si vraiment tout ça ne marche pas, bon, mais il y a les fameux laxatifs, il ne faut pas en abuser non plus, normalement, en dehors des cas vraiment très sévère.
Exactement,
avec tout ce que vous avez dit, ça
peuvent
fonctionne.
Aider. Attention, parfois les médicaments qu'on prend peuvent constiper. Si on prend la liste de tous les médicaments dans le Vidal, eh bien un tiers des médicaments ont comme effet secondaire la constipation. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut arrêter vos traitements, mais dès lors que vous en prenez un particulier, souvent le médecin vous prévient, notamment les antidouleurs, que ça peut entraîner la constipation qu'on peut prévenir avec des laxatifs.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Inaya qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, place à notre invité pour le dossier du jour, c'est le professeur Bruno Crestani, chef de service de pneumologie à l'hôpital Bichat à Paris. Il vient tout nous dire sur la BPCO, cette maladie respiratoire grave, principalement causée par le tabac. Pour en savoir plus, alors aucune hésitation, ça c'est sûr, restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité en studio aujourd'hui, c'est vous, professeur Bruno Crestani. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de pneumologie et responsable adjoint de la cellule de crise sanitaire à l'hôpital Bichat à Paris. Et vous êtes également le vice-président de la Fondation du Souffle. Alors aujourd'hui avec vous, on va s'intéresser à cette maladie, la BPCO.
Bronchopneumopathie chronique obstructive. Et dans le nom, vous avez tout compris. Broncho, c'est une maladie des bronches. Pneumopathie, elle peut toucher le poumon. Chronique, c'est pas une maladie d'un jour, c'est une maladie de très nombreuses années et parfois la maladie d'une vie. Et obstructif, c'est que ça va boucher les bronches. Et avec ce nom, vous avez tout compris.
J'allais dire, c'est un nom pas terrible, mais ça explique bien ce que
on
c'est.
On s'y est fait, on s'y est fait.
D'accord. Et ça peut donner quoi comme juste problème, donc vraiment physiologiquement, on va dire.
Alors physiologiquement, je dirais en termes de symptômes ou en termes de physiologie.
Physiologique,
si vous avez bouché vos bronches, eh bien vous ne pouvez plus respirer. Si vous faites un test, prenez un stylo, essayez de respirer à travers un stylo, vous allez trouver que c'est difficile. Un patient qui a une BPCO, il a les bronches bouchées, il respire en permanence dans un stylo, c'est très désagréable.
Ah,
donc
c'est
il
bonne,
est
bonne image.
Très essoufflé.
Et parfois on entend le mot emphysème que certains patients décrivent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que de l'emphysème ?
Donc tous les patients qui ont une BPCO ont un peu d'emphysème, certains ont beaucoup d'emphysème. L'emphysème, qu'est-ce que c'est ? Et je prends une image très simple. Je prends une cigarette, je la pose sur une plaque de polystyrène, sur du plastique. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un trou. Eh bien, c'est exactement ça l'emphysème. C'est, il se fait des trous dans le poumon à cause de produits qu'on a respirés, le tabac, mais pas seulement le tabac. Et c'est malheureusement irréversible. Et donc, ces petits trous, quand ils s'en mettent les uns à côté des autres, ça fait un grand trou, on appelle ça une bulle. Et donc, l'emphysème, ça fait des bulles dans le poumon. Et ces bulles, parfois, elles peuvent éclater. Et c'est une des complications de l'emphysème.
Cette maladie, donc, comme dans beaucoup d'autres, hein, j'imagine qu'il y a différents stades. On n'est pas tout d'un coup à ce stade avec des gros trous dans les poumons. Ça doit démarrer peut-être plus simplement au départ. Ça va de quoi à quoi, grosso modo, pour nous décrire l'état des patients ?
Alors, on pourrait dire des stades. Il y a le stade zéro, c'est finalement le patient ne sait même pas qu'il est malade. Il n'a aucun symptôme. Et pourtant, si on allait mesurer, si on allait lui faire un scanner, par exemple, on se rendrait compte qu'il y a déjà des anomalies. Et le stade 4, c'est le patient qui est extrêmement essoufflé, qui ne peut même plus faire des gestes très simples. Se lever de son fauteuil pour aller prendre une douche, c'est un problème. Aller à sa cuisine, c'est un problème. Donc, vous voyez, entre rien et un handicap extrêmement sévère.
Et c'est combien de patients en France qui sont touchés par la BPCO ?
C'est la maladie respiratoire la plus fréquente, en dehors des maladies aiguës, banales. C'est 3 millions et plus de patients touchés. Tous les patients ne sont pas au stade 4 que j'ai décrit, heureusement, mais les patients les plus sévères représentent plusieurs dizaines de milliers en France. Et c'est des patients qui vont être sous oxygène parce qu'ils en ont besoin pour faire les moindres efforts.
C'est une maladie plutôt qui touche les hommes, les femmes. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Enfin, on imagine que c'est une maladie du vieux fumeur, mais c'est pas forcément ça. On peut être jeune et avoir de la BPCO.
Alors, on peut être jeune et avoir une BPCO. On peut même être très jeune, mais dans ces cas-là, on se demande si c'est pas d'origine génétique. En général, c'est plutôt l'adulte, au-delà de 50 ans.
Homme plutôt que femme.
Plutôt homme que femme. On comprend pas très bien d'ailleurs pourquoi, mais on peut en discuter éventuellement. Et qui va effectivement avoir été exposé dans sa vie à des toxiques qu'il a respirés. Le toxique le plus fréquent qu'on respire, malheureusement, on se l'inflige à nous-mêmes, c'est le tabac, mais il y en a d'autres. Et on sait que la pollution, par exemple, ça peut être un facteur favorisant du développement de la BPCO.
J'ai le sentiment que dans l'esprit des gens, la BPCO, ce n'est pas une maladie grave. Ça ne fait pas très peur, la bronchite chronique. Pourtant, on peut en mourir.
Ah oui, absolument. Bah, comment est-ce qu'on meurt de BPCO? On meurt de BPCO quand on a tellement détruit ses bronches et son poumon qu'on ne peut plus respirer. Mais c'est vraiment ça, hein. Les patients ne peuvent plus respirer. Ils ne peuvent plus aspirer de l'air, l'éliminer, ils ne peuvent plus capter d'oxygène, ils ne peuvent plus éliminer le gaz carbonique. Et donc, ils sont insuffisants respiratoires. Et quand on manque d'oxygène et que le gaz carbonique s'accumule, eh bien, c'est terminé, hein. C'est indispensable à la vie.
Vous disiez tout à l'heure que la principale cause quand même de la BPCO, ça reste le tabac, le tabagisme. Très concrètement, on sait que fumer, nous on le répète presque tous les jours dans cette émission, c'est très mauvais, ça cause notamment le cancer du poumon, mais donc aussi la BPCO. Dans la BPCO, justement, il va avoir quelle action, la fumée de tabac dans le poumon?
Alors, le poumon, quand je vais inhaler ma bouffée de cigarette, il va arriver dans les bronches, et les petites bronches qu'on appelle les bronchioles. Et ensuite, il va aller jusque dans les alvéoles. Et à chaque niveau, il va abîmer. Au niveau des bronches, il va altérer les glandes et donc il va produire du mucus.
C'est quoi les glandes?
Les glandes,
pardon. Ah, les glandes, d'accord.
Excusez-moi, c'est le masque.
on respire, mais on a
des glandes dans les bronches qui sécrètent du mucus. Et quand je vais irriter ces glandes avec le fumée de tabac, je vais fabriquer du mucus. Et donc, je vais tousser, je vais cracher.
D'accord.
Quand ça arrive dans les bronchioles, ça va les inflammer. Cette inflammation, ça va les boucher. Et donc, vous voyez, c'est l'histoire que je vous ai racontée au début, le tuyau, je vais respirer dans un tuyau bouché. Quand ça arrive dans les alvéoles, ça les détruit directement.
Oh.
Est-ce que c'est une maladie qui évolue plutôt lentement? Parce qu'il y a le mot chronique, donc on a le sentiment qu'on a le temps de voir venir les choses. On passe de combien de temps au stade 0 pour arriver au stade 4 avec de l'oxygène à la domicile?
Alors effectivement, c'est terrible parce que ça va très doucement. Et les débuts, on ne sent rien. Et il arrive encore aujourd'hui que les patients soient diagnostiqués alors qu'ils ont déjà une maladie qui est très évoluée. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste sous-estimé leurs symptômes. Ça s'est installé tellement lentement, année après année, en 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'on n'a même pas eu le temps de s'en rendre compte, finalement.
On toussautait un petit peu, puis un peu plus.
On toussait, on crachait un peu le matin, mais on se disait, c'est normal, je tousse.
Tous les fumeurs se disent, moi j'en ai fait partie très longtemps, je ne m'en cache pas auprès des éditeurs, tous les matins, on se dit, on crache un peu, c'est
normal.
Grave, on toussaute le matin au réveil, il y a un décrassage.
C'est le premier signe de la BPCO. Ouais. Puis ensuite, on va être essoufflé en montant 4 étages. C'est pas normal d'être essoufflé en montant 4 étages. Et puis après, ça sera 2 étages. Et puis après, ça sera 1 étage. Et puis après, ça sera pour descendre son chien, aller chercher son pain. Donc, c'est le côté sournois de la maladie qui est terrible.
Pour autant, tous les fumeurs ne vont pas développer une BPCO. Ils ne vont pas tous avoir le même stade ni la même progression. Est-ce qu'il y aurait un terrain génétique, quelque chose qui prédisposerait à cette maladie?
Alors, c'est une excellente remarque. Effectivement, on constate tous les jours que tous les fumeurs ne développent pas une BPCO. Heureusement, globalement, on va estimer qu'un tiers des patients qui ont fumé vont développer une BPCO à des stades variables. Les terrains génétiques jouent un rôle. Et là, on sait depuis les années 60, donc il y a 60 ans maintenant, que lorsqu'il manque dans le sang une protéine qui s'appelle l'alpha-1 antitrypsine, on va développer une BPCO beaucoup plus jeune, vers 40 ans, avec notamment de l'emphysème. Donc oui, susceptibilité génétique, certainement.
Professeur Crestani, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous. Europe 1. Dans un instant, nous allons continuer ce focus sur la BPCO, la bronchite chronique, et on va passer au diagnostic. Quels sont les premiers symptômes qui doivent pousser à consulter? Quels examens fait-on pour confirmer ce diagnostic, justement? On va vous détailler tout ça dans quelques toutes petites minutes, donc restez bien avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité dans ce studio, c'est vous, professeur Bruno Crestani. Vous êtes chef de service de pneumologie à l'hôpital Bichat à Paris et vice-président de la Fondation du Souffle. Alors, on parle de BPCO depuis quelques minutes et là, on va parler de finalement comment on la diagnostique, cette maladie. Est-ce qu'au départ, vous le disiez, on n'est pas tout de suite au stade 4 où on a besoin d'oxygène, etc., où chaque mouvement peut devenir difficile. Est-ce qu'au début, c'est juste, je tousse un peu. Enfin, je veux dire, on peut tous tousser un petit peu en hiver parce qu'on a une bronchite. Elle ressemble à quoi, la toute débutante, on va dire, d'une BPCO débutante plutôt ?
Eh bien, c'est je tousse et je crache quelques mois dans l'année.
Pas forcément tout le temps.
Ouais. Ah non, c'est pas tout le temps. Hein. On va dire qu'au-delà de 3 mois dans l'année, c'est totalement pathologique. Même si vous êtes fumeur, ça n'est pas du tout normal. Et donc ça, c'est effectivement le premier signe. Dans un certain nombre de patients ont une BPCO sans tousser et ceux-là, leur premier symptôme, c'est l'essoufflement.
Ah oui.
Donc là, deux symptômes qu'il ne faut absolument pas négliger, même quand on est fumeur.
Alors quand vous dites essoufflement, comment est-ce que dans la vie quotidienne on se rend compte ? C'est en montant ces escaliers, c'est plus difficile. Avant, c'était le quatrième étage où on devait s'arrêter, maintenant c'est au premier. Comment est-ce que concrètement on peut se dire là, c'est pathologique, ça pose problème ? Parce que parfois, on est juste un peu désadapté, on ne fait pas de sport et donc on n'est pas en très bonne...
Ça vous parle. Hein.
Oui.
Ça nous parle.
Mais il n'a jamais fumé, donc déjà...
Mais à la limite, je vais vous dire, si vous êtes essoufflé en montant 4 étages, ce n'est pas normal. D'accord ? On peut être fatigué, trouver que les jambes trouvent que c'est dur, mais ce n'est pas normal de manquer de souffle à 4 étages. Alors vous allez me dire, c'est peut-être parce que vous êtes désadapté. Très bien, mais si on est désadapté, il faut se réadapter. Donc autant immédiatement se dire, c'est pas normal, je suis essoufflé à 4 étages. Donc quand on est essoufflé pour courir après son autobus, par exemple, parce qu'on l'a vu au bout de la rue et qu'on n'y arrive plus, ça n'est pas du tout normal non plus. Alors effectivement, notre mode de vie urbain ne nous aide pas, pour beaucoup d'entre nous, mais de toute façon, il ne faut pas négliger le symptôme. Et il vaut mieux aller demander à son médecin, je trouve que je suis essoufflé à 4 étages, et c'est à lui de dire, c'est de la désadaptation, ou c'est un problème respiratoire.
Quand le patient dort, le patient atteint de BPCO, est-ce qu'il tousse aussi ? Est-ce que la nuit, il y a d'autres symptômes ?
Ouais. Alors, c'est très intéressant ça comme question, parce que premièrement, en général, quand on tousse moins la nuit, quelle que soit la cause de tout. Alors, vous allez me dire, il y a des maladies où on tousse plus la nuit. Par exemple, en fin de nuit, c'est les asthmatiques, mais c'est plutôt au petit matin. Mais globalement, dans les toux chroniques, on tousse moins la nuit, peut-être parce que le cerveau contrôle un peu ce qui se passe au niveau des centres de la toux. Ça, en revanche, les patients qui ont une BPCO, surtout un peu évoluée, peuvent avoir des troubles du sommeil qu'on appelle les syndromes d'apnée du sommeil. Oui. Et les deux peuvent être intriqués.
Du coup, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, souvent, les diagnostics se font à un stade avancé de la maladie. Donc, ça veut dire qu'on a des progrès à faire. Il faudrait qu'on diagnostique plus tôt pour stopper l'évolution de la maladie. L'idéal, ce serait d'arriver au stade zéro, c'est-à-dire quand on n'a pas de symptômes.
Alors, ça, c'est compliqué. C'est effectivement un drame, ça. Hein, qu'en 2020, en France, nous ayons encore des patients qui sont diagnostiqués lorsqu'ils arrivent en urgence à l'hôpital parce qu'ils ne peuvent plus respirer, qu'ils manquent d'oxygène, c'est absolument dramatique.
Ça vous le voyez vraiment.
C'est toutes les semaines.
Ah ouais.
C'est toutes les semaines. Donc, ce n'est pas un truc comme ça.
Donc, ils savaient bien qu'ils n'allaient pas bien, ces patients, quand même.
Mais oui, mais quand vous les interrogez, ça faisait plusieurs années qu'ils étaient essoufflés. Mais ils avaient complètement négligé leurs symptômes. Ils toussaient, oui, mais c'était attribué. Donc, ça, ce n'est pas possible. Vous avez des symptômes, il faut consulter. Alors effectivement, le plus tôt le diagnostic est fait, le mieux c'est. Pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe avec la BPCO ? C'est une destruction accélérée du poumon. En vieillissant, j'abîme mon poumon. En ayant de BPCO, je le détruis de façon accélérée. Si j'arrête la maladie à un moment donné, elle va se remettre à évoluer comme quelqu'un qui vieillit normalement. Donc le plus tôt est le mieux, bien sûr.
Quels examens vous allez prescrire ? Parce que d'ailleurs, j'allais dire, vous dites il faut consulter précocement. On peut d'abord passer par le généraliste ou il faut directement aller à la case pneumologue ?
Non, il faut toujours passer pour son médecin généraliste. Parce qu'en fait, quand on tousse, il peut y avoir 10 causes de toux différentes qui peuvent être absolument banales ou d'autres moins banales. Ça peut être un traitement qu'on reçoit, etc. Donc, première case, le médecin généraliste. Et c'est lui qui va orienter ensuite. Et effectivement, après avoir fait un examen et interroger correctement son patient, il va pouvoir orienter vers le pneumologue.
Qui va faire quoi comme examen, lui, pour confirmer ? Vous faites quoi, vous ?
Il n'y a pas de diagnostic de BPCO sans test du souffle. Qu'est-ce que c'est le test du souffle ? C'est les épreuves fonctionnelles respiratoire. On va
épreuve, ça ne veut pas dire que c'est douloureux.
Non,
hein.
C'est rien du tout, ça ne fait pas mal, on ne vous pique pas, on ne vous touche pas, on vous met un embout dans la bouche et on vous assoit dans une machine et on vous dit gonflez à fond, soufflez à fond
faut
le plus fort
souffler,
possible.
Ouais.
Alors il y a des patients qui disent docteur, quand même, ils insistent, c'est dur, etc. Bah oui, on essaye de faire que le patient fasse le mieux possible.
Bon, j'ai déjà fait, c'est un peu long, mais ce n'est pas douloureux en
tout
cas.
Ça dure 20 minutes maxi, tout compris. On va faire un test de réversibilité. Pourquoi ? Parce qu'on constate que c'est bouché et on va essayer de déboucher. Et pour déboucher, on va vous donner quelques doses d'un médicament en aérosol qui va déboucher les bronches. Et pourquoi on fait ça ? Et bien parce que si ça débouche, c'est que c'est de l'asthme.
Oui, oui.
Si ça débouche pas, c'est que c'est de la BPCO. Très simple.
D'ailleurs, hier soir, dans mes visites à SOS Médecins, j'ai vu un monsieur de 55 ans. Il fume 2 paquets par jour, il tousse tout l'hiver. Et là, il faisait ce qu'il pensait être une crise d'asthme, qui était en fait une crise de BPCO. Du coup, je lui ai envoyé faire des examens, notamment une radio. Et là, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Non, j'ai peur qu'on me trouve un cancer ». Et souvent, c'est la crainte des bronchitiques chroniques, c'est qu'à force de chercher, on trouve
quelque
chose. La
BPCO, ça ne leur fait pas peur. Hein, mais
voilà,
par contre, trouver un cancer, ça leur fait très
parfois,
très peur.
Parfois, voilà, il n'a pas vu de pneumologue parce qu'il a peur d'avoir un cancer.
Alors effectivement, le tabac, ça peut donner beaucoup de maladies. Ça peut donner la BPCO et le cancer. Il faut savoir qu'un patient qui a une BPCO, il a un risque augmenté pour la même quantité de tabac fumé d'avoir un cancer. Pourquoi ?
Parce la que maladie en elle-même, donc pas forcément le tabac.
La maladie en elle-même favorise le cancer lorsqu'on fume. Donc vous voyez que c'est la double peine. J'ai d'abord la BPCO et en plus j'ai le cancer.
Il faut dire ce qui est, ça arrive. Vous diagnostiquez parfois les deux en même temps.
Bah c'est malheureusement une circonstance extrêmement fréquente. C'est-à-dire le patient arrive et on découvre les deux maladies en même temps. Et d'ailleurs, ça va être un problème parce que pour soigner le cancer, notamment pour donner de la chirurgie, pour opérer par exemple, j'ai besoin d'avoir un poumon suffisamment en bon état. Or, s'il y a une BPCO évoluée, ça ne sera pas le cas. Donc c'est vraiment très important. Il ne faut pas négliger ces symptômes. La Fondation du Souffle a fait un petit test très simple en ligne qui s'appelle le Soufflotest.
Qu'on trouve sur votre site.
Oui, lesouffle.org. Vous allez sur le site internet. Vous faites votre... C'est très simple. Hein, et à la fin, ça vous dit quelques conseils. Et peut-être aller voir votre médecin d'ailleurs.
On répond à tous les items.
C'est
et on a la petite, le guidage en tout
c'est
cas.
C'est ça.
Très bien. Professeur Crestani, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est le professeur Bruno Crestani. Je rappelle que vous êtes chef du service pneumologie à l'hôpital Bichat à Paris et puis vice-président également de la Fondation du Souffle. Alors, on va passer, professeur, aux solutions, à la prise en charge de ces patients atteints de BPCO. Et donc, la première chose à dire, ça ne va peut-être pas faire plaisir à ceux qui nous écoutent, mais c'est que c'est impossible de faire autrement que d'arrêter de fumer. Et c'est une super nouvelle, en fait, d'arrêter de fumer.
Ah non, mais c'est.
On va essayer
bien
de faire
sûr.
Ça positif. Moi, je sais que c'est positif, c'est possible d'arrêter de ne pas souffrir, j'en suis le témoin, mais allez-y.
Écoutez, je regrette presque de ne pas fumer, parce que c'est un plaisir d'arrêter de fumer. C'est vraiment le bonheur intégral. Vous allez
ça
faire...
dépend grâce à quoi, moi, je trouve.
Non, mais il faut mais se bon. Mettre dans cet état d'esprit de se dire, je vais faire quelque chose de génial, je vais faire un truc très positif. Demain, je m'arrête de fumer. Alors, pourquoi demain ? Parce qu'aujourd'hui, je me prépare.
Voilà.
Et demain, matin, je me mets à arrêter de fumer. Et vous allez voir comme ça va aller bien. Vous avez entendu Mélanie Gomez tout à l'heure qui nous disait que vous toussiez moins, je crois.
Ah oui, mais très vite. Au bout de 15 jours, je toussais
donc
plus le matin.
Donc on va avoir un bénéfice déjà dans les premières semaines.
Bah, moi, j'ai arrêté au plaisir aussi parce que j'ai utilisé la cigarette électronique. Chacun utilise le mode d'arrêt du tabac qu'il a envie.
Bien
mais,
sûr,
voilà.
Tout ce que vous voulez. Ça doit être un plaisir d'arrêter de fumer. Alors un plaisir, effectivement... Parfois, on rate la première semaine, la première tentative ne marche pas, et ça marchera.
J'ai arrêté la cinquième, je vous dis la vérité.
C'est très bien, c'est remarquable. Ouais. Et donc, en tous les cas, c'est probablement la meilleure chose que vous ayez faite dans votre vie.
Et
donc,
dans la BPCO, les effets sont immédiats
Non, vous allez avoir des bénéfices sur la toux. Vous n'allez pas ressentir une amélioration immédiate sur le souffle. Par contre, vous allez vous arrêter de fumer et en même temps, vous allez demander à votre médecin de vous prescrire de la réhabilitation respiratoire. Et il faut faire les deux en même temps. Je m'arrête de fumer et je me remets à l'exercice. Et réhabilitation respiratoire, c'est encore une fois se faire plaisir. C'est marcher à l'endroit où on a envie, en promenant son chien. C'est parfait.
Bon, en ce moment, on est un peu limité dans nos déplacements.
Bien sûr,
mais...
et on peut le faire en intérieur, voilà. En se faisant aider par un kiné. C'est pris en charge par la sécurité sociale. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut penser. C'est la meilleure décision que vous puissiez prendre dans votre vie, c'est d'arrêter de fumer pour votre BPCO.
La prise en charge des patients BPCO passe aussi par la vaccination. Je crois qu'il y a plusieurs vaccins qui sont recommandés justement chez eux.
Alors, c'est absolument remarquablement important. premièrement, vaccin contre la grippe tous les ans. Mais ça, je crois que les gens s'y sont fait. Maintenant, on a compris que quand on a des problèmes respiratoires, la grippe, ça peut être un problème. Vaccin contre la grippe tous les ans et vaccin contre le pneumocoque. Vaccin contre le pneumocoque. Le pneumocoque, c'est un microbe qui, comme son nom l'indique, aime le poumon. Pneumo, pneumocoque. C'est deux injections à 2 mois d'intervalle. Et c'est, on est protégé pour 5 ans. C'est un vaccin efficace. Très bien toléré. Ouais. C'est les deux vaccins principaux.
Bon, les infections respiratoires, quand on a une déficience pulmonaire, on comprend bien. Et donc, justement, quand même, on ne veut pas ne pas parler du contexte actuel. Vis-à-vis du Covid, ils sont comment, ces patients BPCO ?
Alors, c'est intéressant. Si on a un BPCO dans une forme sévère, s'il attrape le Covid, le coronavirus, il est à risque de faire une forme sévère qui peut l'emmener en réanimation. Donc, il doit absolument se protéger. D'ailleurs, mes patients qui ont une insuffisance respiratoire, ils se protègent très très bien, mais heureusement, parce que sinon ça peut mal se passer. En revanche, ce qui est un tout petit peu étonnant, c'est, et là il y a des données, vous avez entendu, un peu étonnantes, hein, qui suggéreraient que la fumée de tabac, ou bien quelque chose dans la fumée de tabac, pourrait protéger de l'infection par le virus coronavirus.
La nicotine, alors, peut-être, on sait
alors,
pas.
Hein. Oui, il y a des données sur la nicotine, mais ça pourrait être autre chose. Hein. Vous savez, les asthmatiques aussi, on se demande si c'est l'asthme ou si c'est la cortisone en inhalation qu'ils prennent pour soigner leur asthme, qui pourrait limiter le risque d'acquérir le coronavirus. Ça reste un petit peu douteux, ça.
Autre chose qui paraît parfois étrange, mais il y a une prise en charge diététique, parce qu'un patient qui est BPCO, c'est souvent un patient qui est dénutri, qui n'a pas beaucoup de muscles. Du coup, il faut faire attention de ce côté-là.
Alors, c'est ça aussi, ça fait partie de la prise en charge globale. Un patient qui a une BPCO, il faut qu'il soit pris en charge de façon complète. Pourquoi est-ce qu'il lui manque du muscle ? Eh bien, c'est parce qu'il ne se sert pas de ses muscles. Et donc, le simple fait de ne plus faire d'exercice va faire qu'il va perdre du muscle. Il va perdre du muscle, donc il va être encore plus fatigué lorsqu'il va essayer de faire des efforts. Et là, c'est le cercle vicieux de la BPCO qu'il faut briser. Et briser, encore une fois, en étant très positif. J'arrête de fumer, je me remets à l'exercice.
Et je mange mieux.
Et je mange mieux. Je peux me faire conseiller par une diététicienne sur comment équilibrer mon alimentation dans la perspective de m'améliorer.
Il y a évidemment une prise en charge médicamenteuse dans la BPCO. Il y a donc des bronchodilatateurs, vous allez nous expliquer. Et parfois, mais pas toujours, des corticoïdes inhalés.
Alors, effectivement, ça c'est un message très important. Si on a des symptômes dans le cadre d'une BPCO, que ce soit la toux, l'essoufflement surtout, on peut bénéficier des bronchodilatateurs. Par contre, la cortisone en inhalation, les corticoïdes inhalés, c'est réservé à un sous-groupe de patients.
Qui sont aussi asthmatiques, je crois.
Alors, soit ceux qui ont de l'asthme et une BPCO, ça c'est environ 10%, soit ceux qui font très souvent des exacerbations, au moins 2 fois par an.
Des aggravations de leur maladie, oui.
Voilà, et donc dans ces cas-là, on peut bénéficier des corticoïdes inhalés, mais les autres ne doivent pas en avoir.
Ça paraît bête, mais si on dit bronchite chronique, des bronchioles, des bronches qui sont rétrécies toutes petites avec du mucus, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'imaginer des traitements où on va essayer d'élargir le calibre des bronches ? Est-ce que ça fait partie des choses qu'on peut faire ?
Alors, vous voulez dire avec des médicaments ou avec d'autres procédures ?
Une technique endoscopie, c'est-à-dire on va passer avec une caméra,
alors,
on va mettre...
Il y a eu d'énormes progrès, effectivement, dans le traitement interventionnel de la BPCO. Et je vais faire 2 parties, si vous voulez bien. Emphysème d'un côté, BPCO non emphysémateuse de l'autre. Pour l'emphysème, je vous ai dit, il y a des bulles. Ces bulles, quand elles grossissent, elles peuvent comprimer le poumon sain. Et bien, tout notre jeu va être de réduire ces bulles. Alors, on peut le faire par un chirurgien, mais ça... on n'aime pas trop se faire opérer, ou on peut le faire par voie naturelle, par les bronches, et on va réduire la taille des bulles en injectant, par exemple, de la vapeur ou en mettant des valves dans les bronches.
Ça c'est un peu nouveau, hein, c'est en cours d'évaluation, la vapeur.
La vapeur, c'est en cours d'évaluation. En revanche, les valves, c'est établi. On peut se faire poser des valves lorsqu'on a un emphysème. Il y a des critères très précis, hein, on ne le fait pas à n'importe qui, et ça se fait dans des centres de référence. Mais ça peut rendre service. Le deuxième, c'est les bronchodilatateurs. Les BPCO à qui on peut faire de la dénervation par voie endobronchique, mais ça, c'est expérimental encore.
Dernière chose, je crois que vous me dites qu'il faut absolument faire ce dépistage du cancer bronchique chez ces patients, voire même chez d'autres patients, ça devrait être davantage fait en France.
Les patients qui ont une BPCO, c'est typiquement des personnes qui sont à risque pour le cancer, ils devraient se faire dépister. Aujourd'hui, il n'y a pas de schéma de dépistage organisé.
Pour le cancer
du sein. En revanche, qu'on sait, et ça a été démontré dans plusieurs études dans le monde, c'est que quand on fait ce dépistage, on améliore la survie des patients. On n'est pas en train
Si je suis fumeur, j'ai 50 ans, j'ai fumé combien d'années,
plus de 45
qui devrait le faire
ans, ouais. Plus de 15 paquets, plus de 15 paquets années. Hein, c'est la façon dont on a de mesurer le tabagisme. Vous auriez intérêt à faire un scanner pour rechercher le cancer.
Et encore une fois, tousser, mais être fumeur, c'est pas normal. C'est très soufflé, être
Absolument.
Fumeur, ce n'est pas normal. Il faut consulter.
Absolument.
Très bien, merci beaucoup, professeur Crestani, d'avoir été avec nous. Merci pour cet éclairage très intéressant sur la BPCO, maladie qu'il faut donc prendre en charge le plus tôt possible, on l'aura compris. Merci encore, professeur.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les bobos du quotidien. On va parler des préservatifs avec cette question à laquelle répondra Benjamin Lévesque. Sont-ils tous aussi résistants les uns que les autres? Il reprendra aussi les bases, hein, petit rappel sur leur bonne utilisation pour une protection maximale. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. Alors il est temps à présent de passer à notre séquence les bobos du quotidien. Cet après-midi, on va parler contraception avec cette question que Fanny nous a laissée au 3921, notre répondeur. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, j'ai lu dans un magazine, dans un kiosque, je ne sais plus trop lequel, que les préservatifs n'étaient pas tous résistants de la même manière. Alors je me suis posé la question, je pensais qu'ils étaient tous homologués. Alors est-ce que vous pouvez m'éclairer sur le sujet s'il vous plaît ? Voilà, merci beaucoup.
Alors Benjamin, je pense que le magazine qu'évoque Fanny, c'est celui de 60 millions de consommateurs que je montre à la vidéo tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement effectivement pour prouver que ces préservatifs n'étaient peut-être pas toujours aussi résistants qu'on le pensait ?
Eh bien l'équipe du magazine a voulu tester la résistance de 18 préservatifs, alors de marques différentes, certains en latex, d'autres non, certains épais, certains au contraire très fins. Le seul point en commun, ils avaient tous le fameux marquage CE, hein, vous savez la norme européenne. Et on s'est aperçu bien que toutes les capotes ne se valent pas, Mélanie. Quatre modèles n'ont pas résisté aux tests d'éclatement ou de rupture. Pire encore, on a même pu constater des trous, des perforations pendant l'essai pour l'un d'entre eux. Et il ne faut pas forcément se fier à la marque ou au prix. Hein. Par exemple, pour une même marque, Manix, pour ne pas les citer, vous avez les Manix Super, qui eux sont jugés très résistants, tandis que les Manix Contact eh bien, ne sont pas solides. Enfin, alors c'est moins problématique, hein, mais vous avez des boîtes de préservatifs sur lesquelles il est indiqué ultra fin, or le préservatif est aussi épais que les autres.
Alors Benjamin, on adore les travaux pratiques.
Et vous, hein, Jimmy, on sait. Ouais.
Redonner les
bases. On
s'est
dit, puisqu'on y est, on va y aller
Mélanie
totalement.
Mais n'a pas osé poser la question. Elle voulait que ce soit moi qui le fasse, mais
le
pour tout le monde, voilà, le B.A.B.A.
Alors déjà, il faut bien choisir. Hein. C'est comme un vêtement, on choisit la bonne taille. Inutile, Jimmy, de faire le kéké à la caisse du supermarché hein, et d'acheter des préservatifs XXL.
Si c'est trop grand, c'est pas
le
bon.
Le risque, eh bien, effectivement, c'est qu'il glisse et donc il ne protège plus. Ensuite, il faut bien regarder la date de péremption. Quand vous ouvrez
le
préservatif... Ouais. Oui, alors les yaourts, on se dit souvent que pendant un mois, on peut encore les consommer. Là, non, le latex devient poreux et avec le temps... Et ensuite, il protège moins, il risque même de s'éclater. Donc, quand c'était périmé, eh bien, on le jette à la poubelle. Vous avez toujours la date, là, c'est par exemple le 23 octobre 2023. Donc là, c'est bon.
Il est bon pendant un moment, celui-là.
Exactement.
C'est bon.
Et s'il n'est pas bon, eh bien, on le jette à la poubelle et on va en acheter ailleurs. Et justement, Aurélien Bocan, le président de l'association Aide, nous rappelle où on peut trouver des préservatifs.
C'est très facile aujourd'hui de trouver des préservatifs. On les trouve en grande surface, dans les pharmacies, les associations les distribuent. Par exemple, une association comme Aide, on distribue plus d'un million par an. C'est colossal, hein. On est le plus gros distributeur de préservatifs. Et après, on peut les trouver aussi dans les CEGIT, qui sont les centres gratuits et anonymes de dépistage. Ou alors, il y a des distributeurs façon distribution de friandises, comme dans le métro, en fait, donc, où on peut trouver tous les produits de première urgence au niveau pharmaceutique. Donc, c'est assez facile de s'en procurer au final.
Alors ensuite, quand vous avez votre préservatif à la main, vous avez votre sachet, donc il va falloir l'ouvrir. Donc délicatement, je sais bien que généralement dans ce genre de situation,
c'est pas le moment où on prend le plus de temps.
On est un peu pressé.
Là, on a le temps, allez-y, ouvrez-le tranquillement.
Donc, on évite de le déchirer avec les dents comme un mort de faim. On va délicatement l'ouvrir sur le côté pour ne pas déchirer le préservatif.
Bien.
Donc voilà, donc il y a un sens. Hein. Moi, généralement, je souffle.
Avec le masque, c'est pas très pratique. Mais...
je souffle, mais vous avez le petit capot qui est là.
Ouais.
Et donc, il va falloir le pincer.
D'accord.
C'est ce qu'on appelle le réservoir. Et ça, ensuite, vous avez le glisser donc, sur le pénis. Donc, il y a un sens. Hein, le préservatif est enroulé sur lui-même. Mm-hmm. Et donc, vous allez pouvoir...
Tout en pinçant au bout, on déroule sur le pénis.
Voilà, sur le pénis. Je vous parle du réservoir, Mélanie, c'est très important, puisque sans ça, eh bien, au moment de l'éjaculation, s'il n'y a pas ce réservoir, eh bien, ça va éclater et donc le préservatif n'aura pas son moyen de protection.
Si on a très très peur, on préfère en mettre deux ou ça sert à rien ?
Très mauvaise idée, hein. Ça fait frottement, plastique contre plastique, eh bien, ça risque de se déchirer.
Merci beaucoup Benjamin pour toutes ces précisions.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, on est déjà un petit peu dans l'ambiance, hein, mais ce sera la chronique sexo de Catherine Blanc.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris, qui nous rejoint. Alors aujourd'hui, Catherine, on va aborder le thème des rêves érotiques.
Oh, joli thème.
Oui, joli thème, on aime rêver beaucoup. Et pourquoi pas donc de sensualité, de sexualité. Catherine, est-ce que tout le monde fait des rêves érotiques? Déjà, on parle des adultes, évidemment, hein.
Oui, non, mais pas des adultes, justement. Tout le monde fait des rêves érotiques, enfants y compris, après-ados, ados y compris, pas toujours en s'en souvenant d'ailleurs, hein, mais nous faisons tous des rêves érotiques puisque cela participe de notre construction et de notre réflexion inconsciente quant au sujet de la sexualité. Donc cela démarre dès lors que les pulsions sexuelles, que le champ libidinal est éveillé, donc évidemment déjà dans notre jeune âge.
Et est-ce qu'il y a un lien entre la libido qu'on pourrait avoir et les rêves érotiques? Si jamais on a une envie particulière, est-ce que ça peut se traduire le soir par un rêve érotique ou à contraire, si on n'a pas d'activité sexuelle, eh bien on va la compenser dans les rêves? Est-ce qu'il y a un lien quelconque?
Alors, en général, effectivement, comme vous dites, ça peut être une compensation également. C'est-à-dire qu'en fait, le principe du rêve, en général, et d'érotique en particulier, c'est toujours d'essayer de comprendre ce qui nous sollicite et sur lequel nous pouvons être en difficulté, où nous cherchons des solutions, où nous voulons dépasser nos inhibitions, etc. Donc, nos rêves érotiques sont là pour expérimenter ce qui nous inquiète, expérimenter une position. Quand je dis une position, je ne parle pas d'une position sexuelle, encore que, mais c'est surtout une position relationnelle. C'est dépasser une inhibition, c'est se confronter à sa culpabilité. Donc en fait, c'est une sorte d'expérimentation pour pouvoir oser éventuellement aborder la sexualité ensuite. Donc ça n'est pas lié nécessairement à l'expression d'une libido forte vécue, mais en tout cas libido dont on ne sait que faire et qu'on refoule et que le rêve érotique permet d'expérimenter.
Vous disiez tout à l'heure, on rêve tous, depuis l'adolescence jusqu'à la fin de nos jours probablement, mais c'est autant un truc d'homme que de femme ou il y a une différence entre les deux sexes?
Non, c'est aussi bien féminin que masculin. La seule question, c'est la capacité que nous avons à retenir nos rêves. De façon générale, nous ne sommes pas tous égaux. Certains sont très attentifs à leurs rêves, puisque ça se passe dans le domaine du sommeil paradoxal. D'autres, au contraire, à peine ils se réveillent et ont encore les traces, les sensations qui le refoulent, surtout si le sujet de la sexualité est à refouler.
Est-ce que ces rêves érotiques peuvent se terminer en éjaculation nocturne?
En éjaculation, mais également, d'ailleurs on disait pour les jeunes hommes, on parlait de pollution nocturne, mais aussi en orgasme pour les femmes ou en jouissance pour les femmes.
Donc ça avec peut être plus vrai que vrai quand même dans des
absolument,
rêves.
Absolument, il faut bien comprendre, c'est encore une fois comme tous les autres rêves, ce sont des émotions qui sont à l'ordre du jour dans le rêve. Donc si par exemple c'est un rêve, un cauchemar où j'ai peur, j'ai vraiment peur, je tremble peut-être, j'ai froid peut-être, eh bien c'est la même chose pour la sexualité, c'est vraiment tout le corps, tout l'être émotionnellement qui est sollicité, jusque du coup dans les répercussions érotiques propres au rêve qui a été vécu.
Et qu'est-ce qu'ils disent ces rêves finalement de nous? Parfois certains peuvent rêver, j'en sais rien, d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui dans la vie n'est pas du tout la personne désirée, avec qui on n'a absolument pas envie. Ça veut dire que malgré tout on se voile la face et on aurait envie de coucher ou d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un qui pourtant...
Non, parce que ce n'est pas toujours le personnage qui est mis en scène dont il s'agit. Donc ça pose plusieurs questions. Ça pose la question, bien sûr, comme je viens de le dire, de notre rapport à la sexualité, nos inhibitions, désirs, agressivité, position de soumission, position de domination, etc. Tout ce qui est à l'œuvre dans la sexualité. Et puis après, si c'est un personnage, si tout d'un coup on mêle un personnage, par exemple son patron en plein milieu, alors qu'on n'a pas du tout le moindre désir pour lui, cela peut raconter d'autres choses qui sont de l'ordre du rapport dominant-dominé, avec tous les conflits que génère cette relation de domination éventuelle de sa part. pouvoir et de son besoin de s'en défendre ou au contraire de s'y soumettre, et qui du coup prend vient se mêler à un autre sujet qui pourrait être un sujet érotique. Ça ne veut pas du tout dire évidemment que c'est l'homme désiré.
Du coup, si Mélanie rêve
je
de Mathieu Noël...
Je vois votre équipe,
Non, mais si Mélanie rêve, par exemple, d'un collègue Mathieu Noël ou Stéphane Bern, ça veut dire qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et ça ne veut pas dire qu'on doit aller au bout du fantasme.
Vous êtes un coquin.
Exactement, ça ne veut pas du tout dire qu'on doit aller au bout du fantasme, surtout que Mathieu Noël n'aura pas nécessairement fait le même rêve.
C'est surtout ça.
Voilà, et donc Mélanie pourra venir très tranquillement à la radio. Elle aura passé du bon temps dans cette nuit. Et puis de toute façon, le scénario étant le sien, il faudra simplement qu'elle se mette en paix avec son scénario, sans pour autant qu'elle croie que c'est un...
Gardez vos réponses.
Je n'ai rêvé de personne.
Ce n'était qu'une supposition.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont nous faire rêver, enfin non, nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Ils ont été censurés, Stéphane. Messieurs les censeurs, bonsoir. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi, Stéphane.
Mais oui, trois personnages. Moi, je vous raconterai l'histoire de Baudelaire, dont les fleurs du mal ont été coupées, évidemment, parce que par la censure, Socrate, qui a été condamné à mort pour avoir corrompu la jeunesse, et vous, un autre censuré ?
Moi, je vous pose une question, Mélanie. Est-ce que vous aimez les Kazakhstanais en string ?
J'adore, évidemment.
Évidemment, je connais vos goûts. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi le personnage de Borat, qui a lui aussi été censuré, étonnamment, au Kazakhstan.
Merci beaucoup, Mathieu. Évidemment, dans votre émission, aucune censure, comme chez nous, hein, c'est pareil. Donc, si vous aimez ne pas être censuré, restez sur Europe 1.